renouvelables,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
question d'éthique,
respect de la vie,
politique internationale,
équité,
biodiversité,
pollution, paix.
Car pour faire avancer les idées, il faut être tenace, ben ben tenace. Cette semaine, à Délirium environnemental, en première heure, comme toujours, une revue de l'actualité où on vous parle de la venue du plan stratégique de développement durable de la ville de Montréal, une bonne nouvelle, des conclusions du Forum social mondial qui s'est tenu à Porto Alegre au Brésil au cours de la semaine dernière, de la forêt québécoise qui fait encore et toujours parler beaucoup d'elle, du réchauffement climatique, des ours polaires et de ben ben d'autres choses. En deuxième partie, nous avons le plaisir de s'entretenir avec Monsieur Sylvain Castonguay du Centre d'expérimentation des véhicules électriques du Québec, une entrevue à saveur nouvelles technologies pour nous éclairer sur la situation des technologies d'avenir pour le transport au Québec. Et on termine par nos coups de cœur, coups de masse et au calendrier de la semaine. Alors, bonjour, bonne émission, chers auditeurs. Nicolas Milo, cette semaine à l'animation en remplacement de Sofiane Legendre, qui n'est pas dans le sud, rassurez-vous, même si ça fait quelques semaines qu'elle n'est pas parmi nous, elle va qu'à d'autres occupations. Sofiane, on est avec toi. Et oui, je vous rappelle que Délirium environnemental, c'est 6 personnes qui, à côté de leurs autres occupations, consacrent du temps à la couverture et à l'analyse de l'actualité environnementale. Cette semaine, Patrick Bonin est également au repos, ou peut-être en train de faire du traîneau à chien, qui sait, il avait l'air d'avoir aimé ça. Donc, j'ai le plaisir de vous accompagner cette semaine avec messieurs Hugo Lachapelle et Nicolas Mainville. Messieurs, vous allez bien?
Très bien.
En chair et en onde. Eh bien, je vous rappelle également le travail sans égal d'Étienne Côté-Paluc, régisseur, webmestre et critique par excellence. Car Délirium environnemental, c'est aussi une cyberlettre qu'on envoie chaque semaine à des centaines d'auditeurs. Si vous n'êtes pas inscrit sur notre liste d'envoi, je vous invite à visiter notre site web, le www.radiodelirium.net. Alors avant de commencer cette revue de presse, je me suis laissé toucher et émouvoir cette semaine par une prestation de notre ministre de l'Environnement, M. Thomas Mulcair, qui, à la suite d'une demande du journal La Presse, eh bien, s'est empressé de faire une lettre d'analyse de la grève dans la Ligue nationale de hockey. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ça. Eh bien, moi, je vous dis, M. le ministre, si vous avez le temps de consacrer, du temps à consacrer à l'analyse de la Ligue nationale de hockey, eh bien, je me ferai un plaisir de consacrer du temps à l'analyse de l'environnement au Québec. Et alors, j'aimerais ça vous rappeler ceci, M. le ministre, l'environnement, ce n'est pas une partie de hockey. Les environnementalistes ne sont pas l'autre équipe qu'il faut battre, convaincre ou faire taire. Et surtout, les environnementalistes aujourd'hui ne sont pas seuls. La société québécoise prend de plus en plus conscience de l'importance de vivre dans un environnement sain et que cet environnement, c'est la forêt, c'est le fleuve et c'est aussi la ville. Utiliser les commissions parlementaires, le bureau d'audience publique en environnement pour justifier des idées et des projets qui vont à l'encontre de votre propre idée de faire du Québec une terre de développement durable témoigne que vous ne comprenez pas, mais absolument pas ce qu'est la game environnementale. Alors, pour reprendre votre expression dans votre article au sujet de la grève, peut-être qu'une autre approche est nécessaire. Alors, coach Mulcair, je vous laisse mijoter là-dessus cette semaine. Messieurs, il n'y a pas eu que des fines analyses de la Ligue nationale de hockey cette semaine. On a eu une belle nouvelle cette semaine en province de la ville de Montréal. Il y a l'air d'avoir un petit plan de développement durable qui serait en train de mijoter de ce côté-là, mais qui est peut-être beaucoup plus intéressant que ce que le gouvernement du Québec nous propose. Hugo Lachapelle.
Eh bien oui, l'équipe de Délirium environnemental a mis une main sur la copie du plan de stratégique de développement durable, mais on va quand même s'en tenir à l'analyse qu'en a proposé La Presse cette semaine. Beau travail. Projet super intéressant. Hein? Finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même 80 différents partenaires du milieu économique, du milieu industriel, social et même
environnemental,
et puis même des universités, des groupes de recherche qui sont impliqués dans la concoction de ce plan de développement durable. 80 groupes. Et puis, ce qui en sort, c'est vraiment trois points forts. C'est la précision des actions qui ont été déposées, des échéanciers aussi assez précis, et même parfois différents fonds et leur provenance pour mener à bien différents des projets qui ont été proposés. Alors, c'est quoi ces chiffres-là? Eh bien, c'est assez clair pour certaines choses. Hein? On parle de réduire de 2000 places le nombre de places de stationnement extérieur au centre-ville. On parle d'ajouter 50 km de pistes cyclables sur un réseau qui en a déjà, rappelons-le nous, 350 km. On parle de rajouter 1000 supports à vélo, et ça, mon Dieu, c'était à mon grand plaisir. J'ai tellement eu de problèmes de supports à vélo dans ma vie.
Il faudra rappeler aux administrateurs de la ville que les parcomètres ne comptent pas pour des espaces à vélo aussi.
Et, nouvelle affaire pas mal tripante aussi, la ville s'est engagée à remplacer 500 de leurs voitures sous-compactes, des voitures qu'ils utilisent pour différents services, par des modèles éco-énergétiques, et ce, d'ici 2011. Et on parle même de doubler le nombre de camions, c'est-à-dire aller jusqu'à à peu près 212 camions munis d'un moteur à 4 cylindres au lieu de 6 cylindres. Alors, on parle de toutes sortes de camions de livraison et de services à l'intérieur de la ville. Et c'est quelque chose qu'ils veulent faire de manière à aussi stimuler d'autres groupes dans la ville, comme par exemple Bell Canada, comme par exemple Merck Frost, qui est une grande compagnie qui utilise une grande flotte de véhicules. On parle aussi de différents gestionnaires comme Hydro-Québec, qui aurait grandement besoin d'avoir des véhicules plus énergétiques en ville, et ça serait même idéal de passer le message aussi à nos éboueurs qui changent de camion. On n'en veut plus des diesels.
Et ça, si je me souviens bien, c'est pas des choses qui vont être faites au calendrier grec, là. C'est quelque chose qui, dans le temps, on devrait voir des résultats assez rapidement.
Au plus tard, 2011, pour certaines des choses que j'ai certaines des choses que j'ai mentionnées, mais certaines autres, on les verra en 2005, en 2006 et même en 2007. Et parmi les choses que je n'ai pas mentionnées, il y a aussi toutes sortes d'autres mesures, dont éliminer la marche au ralenti inutile des véhicules. On s'attend à voir un nouveau règlement dès avril 2006, et ça, je pense que ça va être un grand pas en termes de réduction des émissions polluantes.
Ce qui est intéressant avec ce programme-là, cette proposition-là, ce plan-là, je pense que ça a la possibilité d'inspirer d'autres institutions par la suite. On parlait de 80 partenaires. Évidemment, si certaines compagnies ou certaines institutions commencent à emboîter le pas environnemental, je pense que ça peut créer un certain effet de boule de neige puis inspirer d'autres institutions. On espère que ça va le faire. Je pense que ça a été très bien accueilli dans les groupes environnementaux en général. Je ne sais pas si c'est le plus audacieux plan qu'il existe, mais évidemment on peut pas cracher là-dessus. C'est une très bonne nouvelle.
Je pense qu'une chose qui fait l'unanimité, c'est que l'ensemble des objectifs du plan sont atteignables. Mm-hmm. Ce qu'on propose, c'est pas quelque chose qui va demander des efforts à tout casser, des investissements majeurs. C'est vraiment des choses que à la fois les partenaires, parce qu'on voit bien que la ville de Montréal veut agir, mais aussi qu'il y a des gens qui agissent de leur côté, qui les accompagnent. Donc c'est toute une série d'actions que tout le monde, qui est à la portée de tout le monde.
Ça aurait été intéressant de voir une certaine clause disant qu'il n'y aura aucun rajout d'autoroute sur l'île de Montréal, ou pas de création de nouveaux ponts, ou des spécifications comme ça qui auraient probablement sacré une volée sur le projet de l'autoroute 25, évidemment.
Oui, parce qu'on sait que ce plan-là, ce qu'on a présentement, c'est un proposé de plan stratégique qui devrait être entériné par le conseil d'administration, le conseil exécutif de la ville à la fin janvier. Eh bien, ça va tomber un peu pas mal en même temps que tout le dossier de l'autoroute 25. Mmh. Donc, on a peur, entre autres, M. Robert Perrault du Creux-Montréal nous disait vendredi dernier qu'une de ses peurs, c'est que ces beaux efforts-là en vue du développement durable à Montréal, eh bien, que ça soit complètement enterré par le méga dossier qui s'en vient, l'autoroute 25, et qui va sûrement faire beaucoup de bruit, tant au niveau des environnementalistes que de l'administration municipale et gouvernementale au niveau de la province.
Et de la réputation de Coach Milcare.
Ce que je pense qui est intéressant de ce dossier-là, c'est qu'aussi on s'attend beaucoup à mettre les Montréalais à contribution. C'est-à-dire que c'est un projet mené par la ville, mais qui exige une part du citoyen, et ça, je pense qu'on l'a quand même mis en exergue assez bien dans les discussions qui ont eu lieu.
Donc, si vous aviez des plans de vous acheter un démarreur à distance, peut-être que vous pourriez reviser cette
option. On oublie ça.
Eh bien, messieurs, c'est un dossier qu'on suit de près. On fait une petite pause. On vient après avec la forêt québécoise et, entre autres, la déjarnisation prononcée de la semaine. La sortie de M. Desjardins à propos de faire le grand ménage de la fonction publique. Yeah. Eh bien, quand on a un petit moment de répit sur la scène environnementale, il n'y a personne comme M. Richard Desjardins pour venir nous semer la pagaille et faire en sorte que les émotions refont surface. Et cette semaine, une belle sortie de M. Desjardins, Richard Desjardins, dans une lettre ouverte où il suggérait tout bonnement de virer tous les fonctionnaires responsables de la forêt au Québec. Nicolas Mainville, tu nous en parles.
Bien, c'est extrêmement intéressant comme événement, je dirais, dans la question de la gestion forestière québécoise qui suit le dépôt du rapport de la commission Coulombe. Une apparition dans les médias qui est faite de façon assez drastique, carrément en demandant, M. Desjardins demande carrément la tête des hauts fonctionnaires en disant, écoutez, si ça fait 15 ans que le ministère des Ressources naturelles gère notre forêt de la façon comme on le fait depuis la dernière loi sur les forêts en 86, est-ce que, puis en fait depuis plus longtemps que ça, comment qu'une commission comme la commission Coulombe a été capable de voir en quelques mois qu'il y a eu surexploitation de la forêt? Comment que la vérificatrice générale a vu en 2002 qu'il y avait potentiel de surexploitation de la forêt et que le MRN, le ministère des Ressources naturelles, n'a jamais vu ces constats-là? Donc, on nous dit de la part de Desjardins, on est géré par des incompétents, des gens qui ne veulent pas voir la réalité québécoise, ne veulent pas voir que la forêt est surexploitée en ce moment. Et je pense que un point qui est apporté par M. Desjardins dans sa lettre, qui est extrêmement intéressant, c'est que la commission a constaté l'état déplorable de la ressource, mais elle n'a pas expliqué les raisons de cet état-là. Mmh. Et c'est ce qui appelle, dans sa lettre, à dire on aurait eu vraiment besoin d'une commission d'études, et non pas d'une commission d'enquête, pardon, qui nous aurait vraiment dit les sources du problème comme tel.
Donc, les responsables.
Les responsables. Et je pense que M. Desjardins tient un rôle assez important dans cette question-là de la gestion forestière parce que c'est pas tous les groupes ou c'est pas tous les intérêts, les intervenants de la forêt qui osent prendre position de la sorte. À savoir si c'est justifié de demander la tête de tous les fonctionnaires, c'est peut-être un peu drastique comme position, mais je pense que c'est intéressant quand même de soulever la question. Est-ce qu'on est géré par des incompétents? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous.
Dans le fond, une cause de cette sortie-là de Richard Desjardins, c'est sans doute toute cette question de la culture institutionnelle qui s'est développée au fil des années, depuis 30, 40, 50 ans. Ou est-ce que, bon, c'est sûr qu'on peut mettre le dos aujourd'hui sur les fonctionnaires comme le fait Richard Desjardins, mais il y a eu des volontés politiques qui ont encouragé l'instauration de cette fameuse culture-là qui fait que année après année après année, ben, on a laissé l'industrie vider nos forêts.
Entre autres, mais ça a été aussi des décisions politiques. C'est ça qu'il faut faire attention. De plus en plus, on est en train de démoniser les compagnies. Et puis, je suis d'accord pour dire que les compagnies ont vraiment fait de la sale job sur le terrain. Mais il y a toute la game politique en arrière de ça qu'il faut pas négliger. On a créé des emplois, des centaines de milliers. En fait, il y a plus de 100 000 emplois reliés à l'industrie forestière. Là, on se retrouve avec des pénuries en bois. La commission Coulombe qui nous dit qu'il va falloir réduire de 20% l'extraction du bois en forêt. Et puis l'industrie qui réagit déjà en disant écoutez, on prendra pas ça, on peut pas accepter, c'est un autre article qui est sorti cette semaine de monsieur le directeur Jacques Gauvin, le directeur du Conseil de l'industrie forestière qui nous dit on veut pas accepter ça de réduire l'exploitation forestière de 20%, ça n'a pas de bon sens parce que ça va créer des pertes d'emplois. Et puis on les voit déjà les pertes d'emplois et on voit la question entre autres de l'île René Lavasseur. Vous avez vu les menaces qui planent sur Kruger par le biais des Inuits de la communauté Betsiamite qui dit écoutez on les amène en cours parce que ça nous appartient. En tout cas tout ce dossier là on est en train de faire une espèce de dichotomie entre environnement et emploi. Une espèce de polarisation de la situation. Puis c'est dommage parce que, d'une certaine façon, les environnementalistes ont aussi à cœur les emplois que l'industrie, que le gouvernement. C'est juste une façon de gérer la forêt qui est différente. C'est que ça a été, en plus, très mal géré pendant les dernières années. Et le gouvernement a alloué beaucoup trop de terres et beaucoup trop de droits de coupe pour la possibilité de régénération de la forêt. Donc, on se retrouve en ce moment avec une pénurie. On va perdre des emplois. Et il faudrait pas donner tout le mauvais côté de la médaille aux environnementalistes qui disent, écoutez, faut protéger cette forêt-là qui nous reste.
Oui, parce qu'en plus, faut se rappeler que le milieu de la forêt foresterie, comme plusieurs autres activités qui entourent les ressources naturelles au Québec et au Canada, eh bien, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui reposent sur une activité qu'on appelle primaire, qui est la simple extraction de la ressource, et après ça, on l'envoie ailleurs. C'est pas pour rien que souvent on compare le Canada et qu'on le dit que c'est le plus riche des pays en voie de développement. Le Canada a une économie de pays en voie de développement. Mm-hmm. Et peut-être qu'on s'en rend pas justement compte. Les emplois qu'on perd dans l'industrie forestière, si on les recentre vers des usines de deuxième ou troisième niveau, où est-ce qu'on transforme le bois, où est-ce qu'on en fait des meubles, c'est peut-être une avenue qui est à explorer.
Là, étant donné que l'industrie forestière se présente comme étant vraiment pas très favorable au rapport Coulombe, elle discrédite certaines des décisions qui pourraient être prises, il y a à se demander, parce que je veux dire, le rapport Coulombe, c'est quand même pas fait par des amateurs, il y a quand même à se demander, est-ce que l'industrie pourrait pas nous dire, ben, qu'est-ce qu'elle compte faire, elle, d'ici 50 ans? C'est quoi son plan d'action? Mm-hmm. Parce que si notre gouvernement nous dit que finalement, on n'a pas les ressources nécessaires pour couper au rythme où on coupe, ben, est-ce que c'est pas à l'industrie de nous donner des preuves que ce qu'elle veut faire, c'est tout à fait correct? Ben, en tout cas, elle devrait avoir à nous montrer un plan de ce qu'elle veut faire, parce mm-hmm. que là, on voit qu'ils sont carrément opposés l'un et l'autre.
Mais le problème, c'est la position du ministère des Ressources naturelles qui a vraiment des conflits d'intérêts là-dedans. Je veux dire, si l'industrie qui fait des pressions depuis longtemps, entre autres pour demander la certification forestière, vous savez, cet outil qui existe pour essayer d'avoir des pratiques plus environnementales, notamment le Forest Stewardship Council, qui est vraiment une manière de gérer la forêt plus environnementale, qui tient compte aussi des questions sociales. Il y a certaines compagnies, notamment Tembec, Domtar, qui sont en train de faire des pressions pour pouvoir être certifiées. Ça fait longtemps qui essaie d'être certifié, mais il y a des barrières qui sont mises par le MRN parce qu'on ne veut pas diminuer l'exploitation de la ressource, parce qu'on ne veut pas perdre d'emploi. Donc, vous voyez que la game est vraiment politique. S'il y a des pertes d'emploi, ça peut jouer contre les libéraux ou contre le parti qui sera au pouvoir dans ce temps-là. Et puis, depuis longtemps, les partis politiques essayent de ne pas faire perdre les emplois pour essayer de garder le vote électoral dans ces régions-là. Donc, évidemment, c'est une problématique qu'il va falloir suivre parce que ça nous concerne à tous. C'est notre forêt, c'est notre ressource, mais c'est aussi nos emplois, notre économie. Donc, ça nous touche profondément.
Et oui, effectivement, c'est un dossier qui implique maintenant plus juste le gouvernement, les compagnies, c'est tout le monde, ceux qui en bénéficient, ceux qui en...
Les amateurs de plein air, les pourvoiries. Je pense que de plus en plus, les gens s'intéressent à cette question-là qu'on a peut-être négligée pendant trop longtemps.
C'est pas mal de personnes qu'on va demander à réfléchir un peu plus. Eh bien, re-bienvenue à Délégram environnemental où on vous concocte chaque semaine une petite revue de l'actualité, mais qui devient à chaque fois grosse, interminable, énorme. Eh bien, après le dossier très très local de la forêt québécoise, on vous amène de l'autre côté de l'Amérique, en Amérique du Sud, au Brésil, où se tenait cette semaine le Forum social mondial à Porto Alegre. Vous savez, ce forum social qui est tenu chaque année, un peu en réaction au Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse. Eh bien, Hugo Lachapelle, t'as regardé un peu les grandes conclusions qu'on a tirées de cet événement-là.
Ben oui, le forum vient de prendre sa fin hier le 31, et bon, pour vous remettre en contexte, le Forum social mondial, c'est le cinquième, et bon, d'habitude, on se base beaucoup sur toutes les questions de lutte à la pauvreté, de l'aide au développement, et puis de l'annulation de la dette dans la plupart des pays sous-développés. Alors, tout ce qui est développement économique équitable, dans un contexte de mondialisation, c'est ce qu'on regarde, souvent en contrepoids au Grand Forum économique mondial de Davos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'était un peu étrange, mais on a eu un taux de participation très élevé, quelques 150 000, mm-hmm. 155 000 participants.
C'est un record,
235
hein?
pays, ouais, c'est un record. Quelques 6800 communications, 200 000 personnes à la marge d'ouverture. On parle de quelque chose comme 15 millions de reais, donc 7,5 millions de dollars pour organiser le forum, fonds qui ont été majoritairement déboursés par l'État brésilien, l'État de Rio Grande do Sul, qui est l'État où la ville de Porto Alegre est située, et par la ville elle-même, malgré le fait que le Parti des travailleurs, ce parti politique de gauche brésilien, malgré le fait que ce parti-là ne soit plus au pouvoir maintenant depuis quelques mois maintenant. Donc, Qu'est-ce qu'on retient de ce forum social-là? Eh bien, c'est un peu étrange parce que cette année, on a eu droit au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale qui sont venus faire leur petit tour et qui ont décidé de participer pour la première fois en disant « Eh oui, la lutte contre la pauvreté, ça nous tient à cœur de plus en plus. On s'intéresse à ce que vous faites. On veut vous voir de plus en plus. On veut travailler de plus en plus en collaboration avec vous. » Ce qui ne fait pas le plaisir de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disent « Dehors le Fonds monétaire international, dehors la Banque mondiale, c'est vous le problème. Vous ne ferez pas partie de la solution. » Étrangement aussi, au même moment, au Forum de Davos, on a des stars qui se rejoignent, dont Bono. Donc, qui d'autre t'as mentionné?
Il y avait Angelina Jolie, Richard Gere, je crois.
Et ainsi de suite. Il y avait Bill Clinton qui s'est pointé, Bill Gates, le grand mania de l'informatique, qui sont venus tous nous dire que, ben écoutez, il faut investir des sous dans la lutte contre la pauvreté, il faut s'intéresser à l'Afrique, à la lutte au sida, à la lutte au paludisme, et ainsi de suite. Et on a même eu une sortie de M. François Mitterrand au Forum économique mondial qui lui a dit il faudrait mettre la fameuse taxe Tobin, une taxe aux transactions financières qui ont lieu dans le monde et même à la vente de carburant parfois. Donc, il y a un mouvement dans le milieu de droite, on a un mouvement vers la gauche. Dans le milieu de gauche, il y a une espèce d'intrusion de la droite. Et puis, pendant ce temps-là, à Porto Alegre, il y a des groupes de libéraux, en fait, l'Institut Liberté, qui ont fait des sorties dans les journaux brésiliens pour dire... Mais qu'est-ce que c'est que ce forum-là, qui est complètement basé sur des idéaux de gauche? Est-ce qu'il fait vraiment la promotion de la pluralité de la pensée, qui est le chevron de notre démocratie? Et non, on veut avoir le droit d'avoir des idées néolibérales et participer au Forum social mondial. Surprise, surprise, cette année. Mais bon.
Comme s'il n'y avait pas une assez grande tribune partout dans le monde, fallait qu'il soit exactement aussi présent au Forum social mondial.
Donc, on assiste à une belle chaise musicale qui fait peut-être l'affaire des grands magnats de ce monde à Davos, de paraître un peu plus à gauche, mais qui ne semble pas faire l'affaire de tous les participants du Forum social mondial. On se rappelle qu'on a vu beaucoup le titre qu'on était rendu à une certaine maturation du forum social. Le forum grandit, doit s'ouvrir, doit devenir peut-être plus sérieux, plus conscient de la réalité de droite qui gère le monde. Et l'année prochaine, on envisage même de séparer le forum social qui ne se tienne plus uniquement au Brésil, mais dans plusieurs endroits dans le monde pour permettre justement un élargissement des courants de pensée. Entre autres, le Canada, je crois, est perçu comme étant une des terres d'accueil d'un sous-sommet...
C'est en effet les prévisions. 2006 sera l'année de la décentralisation du forum. On va avoir des forums sectoriels thématiques dans plusieurs villes du monde. Alors qu'en 2007, on veut reconcentrer vers l'Afrique. C'est une des ou deux des 352 propositions qui vont rendre le forum un peu plus concret.
Eh bien, si on se met à avoir des sous-forums sociaux mondiaux qui se mettent un peu partout, il va falloir se déplacer. Et qui dit déplacement dit bateau, car c'est sans doute le moyen de
faire un lien avec ma nouvelle.
Et voilà, ce qui nous amène à Churchill, Manitoba, où complètement à l'opposition du Forum social mondial, il y a des préoccupations très, très axées sur des réalités naturelles du milieu, mais qui sont reprises par les forces économiques de ce monde.
Ben oui, en fait, je parlerais plus d'un ajustement des gros lobbies notamment le lobby pétrolier. Vous connaissez évidemment la problématique des changements climatiques. Quand on parle d'ajustement du social mondial, bon, ben ici c'est ajustement des grands riches de ce monde qui sont en train de voir évidemment l'intérêt de la fonte des glaces dans l'Arctique. On en a déjà parlé. Vous savez, cette fonte des glaces qui est accélérée en Arctique, notamment à cause de l'augmentation des températures, et qui fait en sorte que, bon, déjà depuis les 30 dernières années, on parle d'un 8% qui a disparu durant la période estivale. Et puis, bon, il y aurait une compagnie déjà qui a décidé d'investir. Cette compagnie qui se nomme, attendez un petit peu, je la trouve, j'ai perdu son nom. Comment j'ai fait pour perdre son nom? Oh non.
Une compagnie qui exploite le port de Churchill, du moins.
Oui, mais je veux dire son nom.
Orthomax, ou c'est pas une
Omnitrax, pardon, Omnitrax. Merci, excusez-moi, elle était tellement loin. Donc, elle a décidé d'investir dans le port de Churchill, qui est dans la baie du Tson, du côté du Manitoba, pour essayer de s'assurer qu'elle va contrôler d'une certaine façon les exportations de pétrole entre la Russie et le Canada. Donc, vous comprenez que s'il n'y a plus de calotte glaciaire dans le pôle Nord, le trafic maritime va pouvoir se faire. Et puis, on a déjà construit le port qui va pouvoir accepter des très gros bateaux, donc les Panamax, avec ces coques immenses, et qui seraient aussi munis de brise-glace et tout le tralala pour s'assurer de ne pas trop endommager les coques à cause de la glace, tout ça. Un projet qui est déjà dans l'air et qui est déjà même jusqu'à Winnipeg, on a déjà fait la réfaction de la voie ferrée pour s'assurer du transport du pétrole. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est d'ouvrir le marché russe au marché américain en sauvant plus ou moins 2000 km de distance, puisque au lieu de passer par le canal des Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, on passerait par en haut, par la baie du Tson, avec un gros pipeline, puis après ça, on envoie ça à Winnipeg, sur la voie ferrée, puis vous voyez la game qui est en train de se jouer. Donc, on provoque les changements climatiques, on émet des gaz à effet de serre, on change le climat, ça fait fondre la calotte glaciaire, et puis on est en train de négocier pour du commerce de pétrole qui est la cause des changements climatiques.
Mais on se rappellera.
C'est pas une belle planète qu'on a.
On se rappellera que dans le plan d'action du Canada sur les changements climatiques, un plan qui est sans doute vétuste et tabletté depuis longtemps à Ottawa, eh bien on parle que du côté de l'adaptation au changement climatique, il va aussi falloir être capable de tirer profit des nouvelles possibilités que permet l'adaptation au changement climatique.
Et voilà.
Ça, c'est voir la pièce partout.
Blessed are Rastan and Sergeant Garcia. Come to the world with the roots and the culture. Tell them.
Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución.
Mi revolución es perpetua. Nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. El movimiento no conoce la pausa. Todo everybody viene a bailar.
Todo el mundo viene a cantar. Dile a tu papá, dile a tu mamá, que everything's gonna be alright. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución.
Me fui caminando para las cuatro direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores. Ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Yeah, peace and love shall abide, equal rights and justice. Tell your mama, tell your papa, everything's gonna be alright.
Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución.
Now the wake up is yawning for the name of fine tea. Me still keep the faith up in the Almighty. And power on the Holy Trinity. Don't try testing powers, cause it's infinity. We work hard, be with you.